Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Nous voilà bien. Ça y est, c'est enfin le week-end. Bon, on ne peut pas encore faire tout ce que l'on veut, mais on tient bon tous ensemble et en écoutant RTL, bien sûr. De 9h15 à 10h chaque samedi, nous nous transformons en consommateurs avertis grâce aux éclairages de nos invités. Et c'est parti pour le sommaire. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les services proposés par nos banques ne sont pas tous gratuits. Et non, et la note peut monter très très vite sans que l'on s'en rende compte. Alors comment limiter les frais bancaires? Grâce à Armelle Lévy, bien sûr. Armelle qui est journaliste au service éco et conso d'RTL. Le poisson, c'est bon pour la santé. On nous invite à en manger. Mais comment bien choisir ses produits quand il s'agit de poissons transformés? Patricia Chiropoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs, en charge de la rubrique alimentation, nous dévoile le résultat d'une grande enquête. C'est un aliment qui a fait son entrée dans nos placards assez récemment. Le quinoa est-il devenu incontournable? Et surtout, comment le cuisiner? Tous au fourneau avec Angèle Ferremag, chef, créatrice de la guinguette d'Angèle à Paris et naturopathe.
Comme une banque. Et pourtant, je n'ai ni livre, ni dollar, ni sous, mais je prends comme une banque.
Comme une banque, Joséphine Baker. Mais c'est Armelle Lévy qui est notre invitée en ce samedi matin. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. Les frais bancaires, Armelle Lévy, ils sont quand même planqués. Hein, on les voit pas venir. De quoi s'agit-il en réalité?
Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y en a plein qui confondent tout. Ce qu'on appelle les frais bancaires, ce sont tous les frais de gestion que les banquiers vous font payer pour les opérations du quotidien liées à la vie de votre compte bancaire. Donc, quand on parle d'un taux de crédit immobilier ou de crédit à la consommation, on ne parle pas de frais bancaires. Même chose pour les frais de versement sur un contrat d'assurance. Assurance vie, ce ne sont pas des frais bancaires.
Alors, c'est bien ce que je disais, on ne les voit pas, on ne les perçoit pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit jeu, finalement, de la banque. Qu'est-ce qu'ils englobent pour prévenir, justement, nos auditeurs?
Alors, ce sont les frais de tenue de compte pour la gestion de votre compte, ouais, qui sont apparus en 2013 et qui ont triplé depuis. Ils sont facturés en moyenne 18 euros par Français par an.
Vous c'est payez... pas mal, hein?
Ah oui, pas mal, hein. Vous payez aussi une cotisation pour l'utilisation de la carte bancaire. Mmh. Elle coûte en moyenne 43 euros par an. Sans oublier tous les frais appliqués pour les opérations de paiement, les frais de retrait quand vous retirez dans un autre distributeur qui n'est pas celui de votre banque, les frais de virement et ceux fabriqués quand vous dépassez votre autorisation de découvert. Donc pour résumer, les frais bancaires, ce sont tous les frais liés à l'utilisation de votre compte.
Et en fait, quand je vous écoute, je me rends compte des sommes, ça peut devenir un véritable budget en réalité.
Oui, les Français s'en plaignent beaucoup, mais oui, pour une majorité, ça reste quand même acceptable, entre 15 et 18 euros par mois, ce qui fait entre 180 et 220 euros sur l'année, pour une banque traditionnelle. Pour les banques en ligne, c'est beaucoup moins, c'est même en dessous de 10 euros par an. Mais le vrai problème, il est pour tous ceux qui ont des découverts réguliers. Là, c'est le trou dans la raquette, vous pouvez payer jusqu'à 500 euros de frais par an.
Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un package qui pourrait être plus intéressant que des produits et des services à la carte? Ils
oui,
proposent ça ou pas?
Oui, ça peut, mais ce n'est pas systématique et tout dépend de votre profil. Très souvent, si vous êtes jeune, entre 18 et 25 ans, la banque va vous proposer des packages avec différents services, tout compris, pas trop cher. Mais après, c'est moins le cas quand on est actif. Là, généralement, mieux vaut prendre les services à l'unité. Il y a un site moneyvox.fr qui a analysé les offres. Et dans les packages, il y a toujours des produits qui ne servent à rien et qu'on essaye de vous refourguer en disant que c'est intéressant. Typiquement, on vous vend toujours une assurance des moyens de paiement dans un package. Mais aujourd'hui, la loi couvre les fraudes à la carte bancaire. Donc cette assurance ne sert absolument à rien. Et dans certains packages aussi, on vous fait payer un abonnement mensuel à une revue de la banque. Ça vous
s'en fout.
Voilà, alors que personne ne la lit.
Oui, c'est ça. Et on ne sait même pas qu'elle existe en réalité. Donc ça, c'est une forme de filouterie, quoi. Oui. Ils sont évidemment très forts pour nous refourguer des trucs dont on n'a pas forcément besoin. Quels sont les frais bancaires les plus élevés?
Alors, ce qui coûte vraiment cher, c'est quand on dépasse son découvert autorisé. Vous pouvez payer des AJO, donc le taux d'intérêt du découvert, 20%, mais aussi les frais d'incident de paiement qui vont s'enclencher et surtout se cumuler. Et c'est là où ça fait mal, cela peut mettre les gens dans la panade. Un exemple, vous avez 500 euros de découvert autorisé. Vous dépassez, la banque va vous facturer 8 euros de commission d'intervention à chaque opération, mais comme vous êtes dans le rouge vif, si vous avez votre prélèvement d'électricité qui se présente, plus la box, plus le loyer, plus un rendez-vous chez le coiffeur, la banque va refuser les prélèvements, donc elle va vous facturer à chaque fois 8 euros de commission d'intervention plus 20 euros de rejet de prélèvement 4 à 5 fois de suite. Alors sachez quand même une chose, si le prélèvement est rejeté une première fois et que le même prélèvement se représente 15 jours après, il est toujours rejeté, vous pouvez demander à votre banque de ne pas payer deux fois le même rejet de prélèvement. Il y a un autre frais qui coûte cher aussi, entre 40 et 50 euros. Là, ce sont les frais pour posséder une carte bancaire. Alors sachez, pour l'anecdote, que jusqu'à présent, les cartes à débit immédiat, celles où vous êtes débité tout de suite sur votre compte, coûtaient moins cher que les cartes à débit différé, celles où la banque vous fait l'avance et vous êtes débité à la fin du mois.
C'est normal.
Voilà, mais aujourd'hui, c'est contre-intuitif, c'est l'inverse.
Oh.
Oui, les banques font tout pour vous inciter à choisir la carte à débit différée en la vendant moins cher que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elles appliquent des frais plus élevés aux commerçants lorsque vous payez avec une carte à débit différée. Elles se rattrapent derrière sur le dos des commerçants. Et un autre exemple de frais qui coûtent cher et même très cher, ce sont les frais de succession liés à votre compte. On ne les regarde pas parce qu'on ne vient pas dans une banque pour ses successions quand on ouvre un compte. Mais au moment du décès, selon les banques, elles vont vous prélever entre 70 euros et 430 euros pour fermer le compte. Quel que soit le montant sur le compte. Et les héritiers ne peuvent pas contester parce que c'est la personne décédée qui a souscrit.
Ouais, donc il faut vraiment, vraiment être averti. C'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous ce matin. Ces frais, ils sont encadrés ou est-ce que les banques les fixent un peu comme bon leur semble à la one again ?
Justement, le principe, c'est la liberté tarifaire. Les frais bancaires sont libres. Mais il y a une liste d'une dizaine de frais qui sont encadrés. Les commissions d'intervention sont plafonnées à 8 euros et 80 euros par mois. Et tous les frais de rejet de chèque sont plafonnés pour chaque opération à 30 euros ou 50 euros selon le montant du chèque. Mais attention, si quelqu'un encaisse 25 chèques à vous pendant le mois, là ce sera 25 fois 30 ou 50 euros de frais. Ce n'est pas plafonné dans le mois et là ça fait mal. Alors quand même, maintenant, il y a des lois un peu plus protectrices depuis l'automne dernier. Si vous êtes détecté par votre banque comme un client fragile, vous verrez vos frais bancaires plafonnés à 25 euros par mois. Cela concerne potentiellement près de 3,5 millions de Français. Si vous avez plus de 5 découvertes par mois ou des incidents de paiement pendant 3 mois consécutifs ou si vous êtes fiché à la Banque de France. Mais le problème, c'est que ce sont les banques qui fixent elles-mêmes le critère de revenu. Pour certaines, il faut que le client ne gagne pas plus de 1 000 euros tous les mois. Pour d'autres, pas plus de 1 500 euros pour être considéré comme un client fragile. Donc, c'est un peu à la tête du client, quoi.
D'accord. Voilà. Ça a toujours été comme ça ou pas ?
Non, c'est une avancée. Il y a 10 ans, quand les frais bancaires n'étaient pas plafonnés, les Français dans le rouge pouvaient payer jusqu'à 2 000 euros de frais par an à leur banque. Donc, tous ceux qui avaient déjà la tête sous l'eau, on les enfonçait encore plus.
Tu m'étonnes. Mais est-ce qu'elles sont tenues d'avertir leurs clients, les banques, lorsqu'elles augmentent leurs frais bancaires ? Moi, je n'ai pas souvenance d'avoir reçu des courriers dans ce sens.
Si, normalement, vous recevez tous les ans un relevé annuel de frais avec la nouvelle brochure tarifaire.
On ne m'en regarde jamais, ces trucs-là.
Mais oui, mais elle compte 350 tarifs.
Oh, tu m'étonnes.
Donc, si vous regardez la brochure d'une banque et celle d'une autre, vous n'arriverez jamais à savoir quelle est la moins chère. C'est pour ça que maintenant, pour plus de transparence, les banques sont quand même tenues d'afficher les 10 tarifs les plus utilisés en début de brochure. La carte bancaire, les virements, prélèvements, connexions en ligne. Et si les prix montent, la banque doit vous prévenir 2 mois avant l'application des tarifs que ça va augmenter, mais elle n'a pas besoin de vous avertir si ça baisse à votre avantage. Mais c'est quand même bien de l'avoir en tête, Flavie, de jeter un coup d'œil de temps en temps sur les bonnes et mauvaises nouvelles de votre banque pour savoir ce que vous payez réellement dans l'année et ce qui va augmenter.
Bon, alors, on a encore plein de questions à vous poser, notamment sur les banques en ligne. Vous nous avez expliqué il y a un instant que les frais bancaires n'étaient pas les mêmes. On va se retrouver pour la suite de Nous voilà bien avec vous, avec Patricia Chéroupoulos et on parlera du quinoa avec Angèle Ferremacht. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Il est l'heure, peut-être, de vous réveiller et puis de vous informer grâce à Nous voilà bien, le magazine conso du samedi matin sur RTL. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, Patricia Chéroupoulos de 60 millions de consommateurs va nous livrer le résultat d'une enquête menée par le magazine sur les poissons transformés. On parlera du quinoa avec Angèle Ferremacht, mais pour l'heure, on parle de la banque avec notre invité Armelle Lévy. Alors ça, c'est un petit peu le bruit du bandit manchot de la banque avec les frais bancaires. Nous, on ne les voit pas forcément passer, Armelle Lévy. Et pourtant, effectivement, aujourd'hui, vous nous éclairez sur des frais que l'on pourrait d'ailleurs régulièrement éviter. Alors ça, ce sont pour les banques traditionnelles. Mais les banques en ligne, est-ce qu'elles sont plus intéressantes en termes de frais bancaires ?
Ah oui, vraiment, c'est certain. Si vous passez d'une banque traditionnelle à une banque en ligne, vous réalisez au minimum 80% d'économies. Et ça peut même coûter 3 fois moins cher si vous changez.
Mais c'est
alors,
super.
Mais oui, pour pourquoi les Français ne changent pas, vous allez me dire. Eh bien, parce qu'une bonne partie de l'économie française vit sur le fait que les clients ont la flemme de changer. C'est pareil pour les abonnements téléphoniques. Et aussi parce que les banques en ligne n'ont pas d'agence physique. Et donc les Français préfèrent avoir une agence à côté de chez eux, même s'ils n'y vont jamais, c'est rassurant.
Mais c'est vrai, ça change tout parce qu'on a l'impression que la banque en ligne, elle est un petit peu mystérieuse, elle est un peu fantôme, quoi.
Oui, mais pourtant les gens répondent au téléphone et vous envoyez des mails, ils répondent aussi.
En fait, il faut être à l'aise avec Internet.
Voilà, et ça c'est la troisième raison. Hein. C'est pour ça que beaucoup payent encore 150 euros par an au lieu de payer 10 euros.
Oh là là. Et dites-moi, les frais bancaires abusifs, alors c'est une réalité ou pas ?
Alors abusif au sens juridique, non, mais excessif, sans doute, oui. Le problème de fond de la banque française, comme me l'ont fait remarquer Maxime Chipoy du site MoneyVox et l'UFC Que Choisir, c'est que vous ne payez jamais le vrai prix des services. Tout subventionne tout et tout est subventionné par tout. Typiquement, les crédits immobiliers. Ils sont vendus à des taux défiant toute concurrence, mais les banques essayent de se rattraper derrière sur les services bancaires en les facturant plus cher que ce que ça vaut vraiment. Aujourd'hui, le système bancaire propose donc des crédits pas chers aux 25% des Français qui ont les moyens d'acheter une maison ou un appartement et se rattrape sur les 30% de Français qui payent leur découvert et qui ont le plus de problèmes financiers. Donc ceux qui sont ric-rac payent plus que leur part dans le système de la banque au quotidien, ce sont les plus fortement margés.
Et on peut contester des frais bancaires quand on estime qu'ils sont exagérés ?
Oui, et d'abord, les banques se sont engagées à rembourser les frais d'incidents bancaires qui ont contribué à vous fragiliser. Donc si vous avez perdu des revenus avec la crise, vous êtes au chômage et que vous avez payé des frais d'incidents bancaires, eh bien n'hésitez pas, envoyez un courrier à votre conseiller, vous lui expliquez que ces frais ont contribué à vous fragiliser davantage. Les banques se sont engagées, un, à regarder si c'est bien le cas, et deux, à vous rétrocéder ces frais.
Il est possible de réduire un peu la facture. Tout à l'heure, vous nous disiez que parfois, on payait des frais bancaires qui étaient inutiles.
Bah oui, c'est ça. La solution, c'est de réduire les options inutiles. Et si ce n'est pas suffisant, alors là, vous pouvez faire jouer la concurrence en utilisant la mobilité bancaire. La démarche est facile. La nouvelle banque s'occupe de tout. Elle a un mois pour prévenir l'ancienne banque. Elle s'arrange entre elles pour avertir votre employeur, le fournisseur de gaz, d'électricité, l'opérateur téléphonique, pour prendre en compte votre nouvelle identité bancaire pour tous les virements et tous les prélèvements. Et c'est totalement gratuit pour les comptes courants.
Oh bah dis donc, on a appris encore plein de choses. Hein. Je pense qu'on va tous aller mettre notre nez dans nos frais bancaires ce week-end. Merci beaucoup, Armelle
Lévy,
de nous avoir un programme super sexy, mais nécessaire parce qu'on peut faire des économies et ça, c'est le but justement de notre émission. Merci pour toutes ces infos, Armelle Lévy. On vous retrouve très vite, évidemment, dans cette émission, Armelle, et je vous laisse rejoindre le service éco et conso d'RTL. Vous consommez beaucoup de poissons, vous ?
Ah oui, mais j'aime beaucoup le poisson. Oui.
Et vous vous interrogez parfois sur les poissons que vous mangez ?
Oui. Et faut se méfier des saumons ou des poissons dits sauvages, en fait. J'ai réalisé qu'ils n'étaient pas forcément meilleurs.
Pas si sauvages que ça. On en parle avec Patricia Chiropoulos dans un instant. Merci beaucoup, Armelle Lévy. À bientôt.
À bientôt.
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ?
Bonjour Patricia Chiropoulos.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, je le disais, à 60 millions de consommateurs en charge de la rubrique alimentation. Je demandais à Armelle Lévy si elle consommait beaucoup de poissons. Elle me répond « Oh que oui ». Est-ce que c'est le cas de tous les Français ?
Oui, effectivement, les Français consomment beaucoup de poissons par rapport à pas mal d'autres pays européens, hein, puisqu'on est à 35 kilos en moyenne par an. Donc nous sommes en gros à la 5e place dans les consommateurs européens, donc ce qui est plutôt bien. Voilà,
très bien.
C'est une bonne chose.
Parce que c'est un intérêt nutritionnel, le poisson ?
Oui, bah d'ailleurs, on sait que les autorités sanitaires nous recommandent d'en manger deux fois par semaine, pour plusieurs raisons nutritionnelles. Hein, ce sont des protéines de bonne qualité. C'est une bonne source de vitamines, ce qu'on appelle liposolubles, les vitamines A et D notamment. Et en plus, il y a beaucoup de minéraux parmi, et notamment le fameux phosphore dont on parle beaucoup. Et enfin, pour les poissons gras, comme le maquereau, le saumon, évidemment, il y a aussi un bon apport en acides gras essentiels, les fameux oméga-3. Voilà, donc tout ça fait que c'est une très bonne idée de manger beaucoup de poissons.
Mais alors, c'est quoi un poisson transformé ? Parce que pour moi, un poisson, c'est un poisson. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais transformé, ça veut dire quoi ?
Oui, alors voilà, donc effectivement, il y a le poisson qu'on va acheter chez son poissonnier. Mmh. Et puis, tous les produits à base de poissons que l'on trouve dans les supermarchés. Hein. C'est-à-dire que les industriels ont soit ajouté des ingrédients ou des additifs, ou les ont aussi broyés, enfin modifié aussi l'apparence du poisson. Donc, ça va, par exemple, du thon en boîte. yaourt qui est un petit peu modifié, mais il y a eu quand même un ajout de sel, et puis il a été mis en conserve, apertisé, au fameux surimi, qui lui est vraiment un produit très transformé, parce qu'on ne reconnaît pas du tout le poisson. Il y a eu un gros broyage de poisson là-dedans.
On ne sait même pas ce que c'est d'ailleurs, le surimi.
Voilà, et ben oui, c'est bien le problème. Exactement.
Il y a comme un doute. Ça s'appelle surimi, mais on ne sait pas si ça avait des nageoires à la base, ou des pinces, des crabes.
On l'espère au départ, mais c'est vrai que c'est bien loin.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes infos pour un poisson transformé qu'un poisson frais qu'on va acheter chez notre poissonnier, évidemment.
Non, et d'autant plus que la réglementation est différente sur le plan de la transparence, c'est-à-dire comment savoir où le poisson a été pêché, avec quel engin de pêche, puisque ça va être justement intéressant pour juger de la durabilité de ce poisson. Autant sur le poisson frais depuis 2014, c'est obligatoire, donc chez le poissonnier, vous allez voir le mode de pêche, ça a été du chalut, de la pêche à la ligne, où il a été pêché, Atlantique Nord-Est, Pacifique, etc. Et puis l'espèce. Tandis que sur les poissons transformés, donc sur les emballages, vous n'avez a priori aucune information obligatoire sur cela, en tout cas. Vous avez la liste des ingrédients, vous avez les informations nutritionnelles qui sont obligatoires, mais en revanche, rien du tout sur la pêche.
Alors justement, on va se retrouver dans un instant parce que vous avez mené l'enquête à 60 millions de consommateurs, vous avez testé ces fameux poissons, vous allez nous expliquer comment vous avez procédé et quelles sont les surprises évidemment qui se sont présentées à vous. A tout de suite Patricia Chéropoulos pour votre enquête sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Voilà quelques années que l'on nous dit pour manger healthy, pour manger sain, il faut manger du quinoa. Ok, d'accord, mais comment le cuisiner, le quinoa ? Angèle Ferremac va nous donner des recettes dans un instant, mais pour l'heure, place à l'enquête de 60 millions de consommateurs sur les poissons transformés.
Ce n'est qu'un petit poisson rouge, mais malgré sa couleur, ses écailles.
Alors, c'est pas simplement un petit poisson rouge, justement. Merci, monsieur Bourville, de chanter sur l'antenne d'RTL. Non, ce n'est pas qu'un poisson rouge. Le poisson transformé, on ne sait pas véritablement de quoi il s'agit. On a assez peu d'informations, comme vous venez de nous le dire, Patricia Chéropoulos. Comment avez-vous mené votre enquête et comment avez-vous justement testé les poissons transformés?
Alors, nous nous sommes intéressés à quatre familles, donc parmi les plus consommées, donc tant en boîte, les colimpanés, les brandades de morue et le fameux surimi. Alors, nous avons à la fois mené des analyses en laboratoire pour évaluer la qualité intrinsèque, c'est-à-dire s'il y avait des arêtes, s'il y avait éventuellement des traces de métaux lourds, enfin, en fonction justement du produit. Et par ailleurs, nous sommes associés au WWF, hein, cette ONG qui travaille justement sur la surpêche, pour qu'elle nous aide à évaluer justement le score environnemental de ces poissons transformés, ce qui n'était pas facile.
Eh oui, évidemment, les marques se cachent à ce sujet.
Voilà, c'est exactement ça. C'est que sur les emballages, vous voyez parfois rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas, on sait vaguement l'espèce, hein, mais bon, évidemment, colin pané, on sait. Brandade de morue, eh ben, parfois, d'ailleurs, on a eu des surprises parce qu'on a trouvé d'autres pourcentages de certains poissons, pas du cabillaud. Mais c'est surtout le problème, c'est qu'on ne sait pas où ça a été pêché, on ne sait pas comment ça a été pêché. Alors, certaines familles sont, on va dire, plus vertueuses que d'autres, sont plus transparentes.
D'accord. Mais quelles sont les grosses surprises quand même qui sont présentées à vous?
Eh bien, voilà, les grosses surprises, c'est justement ce manque de transparence. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais alors à ce point-là, c'est même au-delà de la déception, il faut vraiment que les fabricants répondent à cette demande des consommateurs qui est de la transparence sur où il a été pêché et comment il a été pêché, ce poisson que l'on retrouve plus ou moins ou broyé ou pané. Hein, ça.
Qu'est-ce qui ressort de votre enquête précisément sur le thon en boîte? Parce qu'on en consomme énormément.
Oui, c'est la famille, on va dire, la plus vertueuse, parce que d'une part, il y a un peu plus de transparence. Déjà, on sait quelle espèce de thon a été utilisée, puisqu'en gros, il y a trois espèces, voilà, germont, albacore, listaou, hein, c'est ce qu'on retrouve. Et déjà, il y a ça. Il y a également la zone de pêche qui est quasiment systématiquement indiquée. Le mode de pêche, c'est plus variable. Donc, en gros, là, sur les 14 références que nous avons étudiées, un tiers est plutôt à privilégier d'un point de vue environnemental, parce qu'il s'agit de germons. Et on sait que les stocks de germons de l'Atlantique Nord-Est, comme c'est indiqué aussi, ne sont pas surexploités. contrairement à l'albacore, par exemple. Donc, mieux vaut choisir un thon en boîte gerbon qu'un thon en boîte albacore. Et ça, on peut le savoir puisque c'est indiqué. Et puis sinon, d'un point de vue donc qualitatif, c'est plutôt une bonne surprise, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la qualité de la chair, il y a très peu d'arrêts, de choses qui peuvent un peu gêner au palais. Bon, le seul inconvénient, c'est le sel. Ça, c'est qu'il y a une teneur en sel qui est trop importante. Et d'ailleurs, c'est un défaut que l'on va retrouver dans la plupart des produits transformés à base de poisson.
Et comme on le retrouve d'ailleurs dans la plupart de tous les produits transformés, hein, à chaque fois qu'on en parle, Patricia Chiropoulos, on a toujours un problème de sel. C'est dingue. Je pense aussi aux poissons panés qui sont très, très consommés, que l'on propose à nos enfants. D'ailleurs, à tel point que certains enfants pensaient que le poisson pané était un poisson carré, hein, à la base. C'est assez inquiétant. Qu'est-ce que l'on peut dire à ceux qui nous écoutent à ce sujet ?
Alors, finalement, ce n'est pas si mal. C'est évidemment moins bien que du poisson frais. Mais bon, si on n'a pas le temps et que votre enfant vous réclame du poisson pané, bon, bah, pourquoi pas ? Parce qu'il y a des efforts. Hein. Alors, déjà, d'une part, le poisson pané, il y a quand même 75% de poisson. Donc, quand même, il y en a. Hein, et la panure prend une petite place, mais finalement moindre que ce qu'on pouvait penser. Et d'autre part, il y a quasiment aucun additif. Ça, c'était aussi une bonne surprise. Il peut y en avoir dans la panure. D'ailleurs, certaines marques sont un petit peu décevantes pour cela. Mais d'autres se débrouillent pour enlever les additifs. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Bon, je ne veux pas non plus faire l'apologie du poisson pané, mais bon, c'est plutôt... Et puis, d'un point de vue environnemental, c'est donc le WWF, les a jugés tous avec modération, au sens que tous quasiment bénéficient du label MSC, qui signifie qu'il y a quand même des obligations de pêche durable. C'est-à-dire que les fabricants, les pêcheurs ont obéi à certaines règles. Donc ça peut rassurer. Il ne faut pas en abuser, mais ce n'est pas trop mal.
Mais quelles sont les marques que vous pouvez nous recommander et celles qui est plutôt invitées à faire un effort ?
Alors, de toute façon, on voit que les marques de distributeurs, certaines marques s'en sortent bien. D'ailleurs, les deux premières sont des marques de distributeurs.
Lesquelles ?
Alors, lesquelles ? Il y a notamment la marque Leclerc et la marque Carrefour, voilà, qui s'en sortent plutôt bien. Et à l'inverse, à l'autre bout, ben, c'est plutôt une autre marque de distributeurs qui s'en sort mal, notamment parce qu'il y a des additifs. Et ça, c'est également une marque de produits surgelés qui est donc très connue et qui est plutôt décevante vraiment sur cet aspect-là, sur l'aspect additif.
Et c'est laquelle ?
C'est laquelle ? Nous sommes toujours réticents. Donc ça, c'est la Picard. D'accord. C'est intéressant, c'est que cette marque-là, que l'on retrouve aussi dans d'autres familles, dans d'autres familles, d'ailleurs, elle s'en sort plutôt bien. Et là, plutôt pas bien. Donc, une marque ne signifie pas forcément que tous les produits sont bons ou à l'inverse,
sont de la même qualité.
Mauvais.
Bon, alors, je vous demandais tout à l'heure aussi, Patricia Chiropoulos, et ce sera ma dernière question. Et on laissera nos auditeurs, évidemment, découvrir toute votre enquête dans 60 millions de consommateurs. Le surimi. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, forcément, moi, je me méfie et j'imagine que le résultat du test n'est pas très bon.
Non, effectivement, ça, on pouvait s'en douter. Hein, c'est le surimi, ben, c'est ça, c'est une pâte de poisson. Voilà. Ouais. Mais il n'y a pas que du poisson, il y a notamment de l'amidon, des fécules, enfin des arômes, des colorants, voilà, toutes ces choses-là qui font ces petits bâtonnets. La réglementation impose seulement qu'il y ait 30% de poisson, ce qui n'est quand même pas énorme. Hein.
C'est rien, c'est pas de poisson.
Ce n'est rien, voilà, le reste, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec du poisson. Et d'autre part, il n'y a pas de liste recommandée pour les poissons à mettre, à utiliser. Donc il peut très bien y avoir du colin, du merlu, du hoki, enfin vraiment des tas de choses. Et souvent, malheureusement, on ne sait pas quelles sont les espèces qui ont été utilisées et comment et où ils ont été pêchés.
Voilà, donc c'est quand même le grand mystère, hein, on va dire, le surimi.
Voilà,
c'est le mauvais élève. Alors, bien évidemment, dans votre enquête, il y a également la brandade de morue, hein, mais ça, je laisse nos auditeurs le découvrir dans le 60 millions de consos actuellement en kiosque. Merci beaucoup de nous avoir informés de la sorte, Patricia Chiropoulos. Dans un instant, on va retrouver Angèle Ferroma qui va nous parler du quinoa. Je sais que vous vous êtes déjà penchée, hein, sur le cas du quinoa dans votre magazine. Et on va rentrer plus en détail avec Angèle qui va nous donner des recettes. Merci et à bientôt. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Et c'est qui le quinoa ? Et c'est qui le quinoa ? C'est Angèle Ferroma qui va nous raconter tout ça.
Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même, les brunchs sont quinoa, quinoa.
Le quinoa. Bonjour Angèle Ferromac.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef, créatrice de la Guinguette d'Angèle à Paris. Vous êtes naturopathe également. Le quinoa, c'est un truc de bobo, ça?
Alors non, pas du tout. Le quinoa, d'ailleurs, je crois qu'on dit,
c'est quoi?
La quinoa. Mais c'est la comme la Covid, ouais. Le peuple
oui,
a tranché.
C'est ça. On ne sait jamais.
Et puis,
voilà.
Et puis c'est tout.
Bon alors, la quinoa, alors, c'est quoi?
Alors, sous ces airs de céréales, c'est en fait un légume à feuilles de la même famille que la betterave, les épinards. Bon, nous, en cuisine, c'est bien là, cette petite graine perlée qui nous intéresse. Et donc, cette petite graine nous vient des Incas. D'ailleurs, ça veut dire graine mère en quechua. Okay. On la cultive depuis plus de 7000 ans dans les Andes.
Et c'est cultivé en France?
Oui, depuis peu, on la cultive aussi en France. Donc, youpi, ah, cocorico.
Cocorico, bleu, blanc, rouge. Et à propos de couleurs, justement, il en existe du blanc, du rouge, du noir. C'est quoi la différence?
Alors, le blanc, qu'on appelle aussi jaune, blond ou doré, c'est celui qui a le goût le plus neutre. En fait, il a un léger goût de noix. Le grain est très malléable. Il est tendre, moelleux, léger. Il est parfait, par exemple, pour les poêlés, les desserts sucrés, par exemple le quinoa au lait, le bar de quinoa soufflé. Mais pour les légumes farcis aussi, il est vachement bien. Le rouge, il est un peu plus corsé. Il a une saveur un peu plus brute. Le grain est d'ailleurs plus ferme, il tient mieux à la cuisson. Il se cuira d'ailleurs un petit peu plus longtemps. Il est plus croquant, il est parfait dans les salades. Par exemple, une petite salade menthe, petit pois, sauce sésame, ail citron. C'est délicieux. Le noir, il est très ferme aussi. Il a l'avantage de garder sa couleur noire de caviar un peu après la cuisson. Il a un parfum beaucoup plus terreux. Et en fait, il est beaucoup plus riche en lithium. Le lithium, c'est un métal qui joue un rôle assez important dans la régulation de l'humeur.
Et c'est bon pour nous ça, en ce moment.
Exactement. Et qui participe à la prévention de la dépression. Donc, je l'adore, notamment en quinoa zoto, un risotto de quinoa. C'est super.
Ah, très bien. Et dites-moi, alors justement, pour tous ces bienfaits, est-ce qu'on peut les mélanger les trois?
Oui, bien sûr, oui. Comme ça, on profite de toute leur texture, de leur saveur.
Et ils se cuisinent de la même façon?
Non, ils ne se cuisinent pas exactement de la même façon, mais en fait, tant mieux. C'est, si on les mélange, d'ailleurs, il existe des mélanges déjà faits, on aura un peu plus de croquant et un peu plus de kit. Donc, ça jouera sur les cuissons, ce sera pas mal.
D'accord, ok. Alors, ça se cuisine un peu comme les pâtes, en fait?
Exactement, ça se cuisine un peu comme les pâtes. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai une technique pour les cuire qui est inratable, qui est super simple. Donc, on compte à peu près 80 grammes de quinoa par personne. Si on veut, on peut le mettre dans une passoire pour le rincer, pour enlever l'amertume. Bon, moi, déjà, je suis flemmarde et en plus, j'aime bien cette saveur un peu amère, donc je le fais pas. Et ensuite, on le met dans une casserole avec deux fois son volume d'eau. Donc, pour un verre rempli de quinoa, je verse deux verres remplis d'eau. On commence la cuisson à froid déjà, ça c'est important. Et quand on lance la cuisson, lorsque ça bout, on arrête tout, on coupe le feu, on couvre et on laisse gonfler une dizaine de minutes et basta. En fait, comme ça, c'est inratable. Ça marche.
Ah, génial. Et après, il ne sera pas gorgé d'eau parce que parfois, c'est ce qui se passe.
Bah, exactement. Je vois beaucoup des quinoa trop cuits. Et en fait, il faut vraiment faire cette technique, ne pas trop le cuire, pas le cuire 20 minutes, ne pas le rincer, pas mettre trop d'eau. Ma technique, elle est inratable.
Très bien. Et dites-moi, nature, c'est un goût assez neutre, en fait, le quinoa. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une matière, c'est plus du croquant dans l'assiette qu'un véritable goût.
C'est vrai, vous avez raison. Moi, je trouve qu'il a un léger goût de noisette quand même, mais il reste assez neutre, c'est vrai.
Et il peut se marier avec plein d'aliments différents.
Moi, je mets il est assez neutre, exactement.
De l'avocat, on peut mettre des fruits, c'est ça, hein. C'est, en fait, on peut tout mettre avec.
Exactement. Okay. Il marche avec tout, en gratin, en salade, avec de la volaille, ou en steak végétal, en dessert. C'est un caméléon.
Eh ben, ce caméléon, alors justement, vous l'avez bien mis dans des recettes, parce qu'on le retrouve forcément à la guinguette d'Angèle, votre guinguette parisienne. Comment est-ce que vous voulez le cuisiner? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme recette aujourd'hui?
Alors là, je vais vous proposer de faire une poêlée crémeuse de quinoa. Alors, pour faire cette petite poêlée, il vous faudra 500 g de quinoa cuit, donc un oignon rouge, 3 gousses d'ail, une petite branche de céleri, 2 carottes, 1 litre ou alors 2 cubes de bouillon de légumes, 200 g de coulis de tomates idéalement fait maison, 200 g de pois chiches cuits et 50 cl de crème d'amande.
Ok.
On a déjà fait cuire notre quinoa donc dans l'eau bouillante, comme j'expliquais. On va commencer par émincer l'oignon et les gousses d'ail. On va les faire revenir dans une poêle avec un bon filet d'huile d'olive. On va découper les carottes et la branche de céleri en petits morceaux, donc en brunoise. On va les faire revenir avec l'ail et l'oignon. Quand ce sera bien doré, on va ajouter le bouillon de légumes. On va couvrir, laisser mijoter une quinzaine de minutes à feu moyen. Et ensuite, on ajoutera les pois chiches, le coulis de tomate, idéalement maison, comme je dis, mais on peut prendre du coulis de tomate bio, ça marche aussi. Et on va laisser doucement réduire à feu doux, une dizaine de minutes. Et en dernier, on ajoute le quinoa cuit et la crème d'amande. C'est tout et c'est délicieux, je vous assure, ça vaut un gros plat de pâtes.
Ah bah oui, et c'est plus healthy.
Bah bien sûr, ça ne contient pas de gluten et c'est plein de bienfaits.
Eh bien, merci beaucoup pour cette recette, Angèle Firma, que l'on retrouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien. Et puis, je rappelle aussi votre dernier livre, Ma cuisine naturelle pour bébé aux éditions Marabout. Merci beaucoup, Angèle.
Merci, Flavie.
Je vous embrasse parce que vous savez qu'à la fin de cette émission, vous venez toujours pour ça. On se fait le fameux bisou de Philippe. Catherine, merci à vous, Angèle. Et je rappelle donc la guinguette d'Angèle à Paris. À bientôt sur RTL. Nous voilà bien, c'est fini pour cette semaine. En attendant de nous retrouver samedi, hop, allez sur l'appli d'RTL. Vous pourrez réécouter les replays. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Et à la semaine prochaine, de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL, bien sûr. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.